Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus lui demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ? Il n'y a que cet étranger ?» Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Nous allons bientôt mettre fin à l'année de la foi, dans quelques semaines, et peut-être nous pouvons faire une lecture de cet évangile dans la perspective de l'acte de foi. En effet, ces 10 lépreux qui viennent demander à Jésus leur guérison s'entendent répondre par Jésus « Allez vous montrer aux prêtres ». Et en fait, ils sont invités à continuer leur route sans constater leur guérison. Mais en entendant cette parole de Jésus, ils savent bien ce que cela veut dire, à savoir que seuls les prêtres du temple à Jérusalem peuvent constater la guérison d'un lépreux. Il y a dans l'enceinte du temple, à l'entrée, une pièce spécialement réservée à cela, au temple de Jérusalem à l'époque. Et il faut donc aller faire constater cette guérison pour être réintégré socialement et religieusement dans le peuple. Donc ils entendent bien quelque part que Jésus a prononcé une parole qui normalement doit les mener à leur guérison, mais Jésus les pousse à aller plus loin et ils vont se remettre en route. Et ce n'est que plus tard, sur le chemin, on ne sait pas très bien où ça s'est passé d'ailleurs, Jésus nous dit traverser la Samarie et la Galilée, donc ce n'est pas quand même tout près de Jérusalem, ça nous met au moins à 150-200 km de Jérusalem. Et c'est au cours de leur cheminement qu'ils vont être guéris. Donc ils iront faire constater leur guérison. Et puis à partir de cela, il y a 2 attitudes qui vont se révéler. L'attitude de 9 sur 10 et l'attitude du 10e. L'attitude des 9 dixièmes, c'est d'empocher la grâce de Dieu sans remercier ni aller plus loin, sans chercher à comprendre d'où cela vient et pourquoi. 9 sur 10, 90% ont cette attitude qui consiste à vraiment recueillir ce que Dieu donne, mais sans penser à dire merci, donc avec une ingratitude, une attitude d'ingratitude qui est particulièrement marquée. Et remarquez bien qu'on est un peu comme ça. On est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre de la création de Dieu, de la vie que Dieu nous donne, des dons qu'il nous fait, sans même penser, sans que la pensée nous effleure, c'est ça qui est terrible, sans que la pensée nous effleure de dire merci et de pouvoir manifester des marques de gratitude, de remerciement. Ensuite, il y a l'attitude du dixième. Et là, Saint-Luc n'est pas avare de détails. Il nous dit, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri. C'est donc qu'il a, quelque part, il a pris conscience de la guérison et que la guérison venait de quelqu'un d'autre, voyant qu'il était guéri. Ce simple mot laisse à penser qu'il y a quelque chose qui a cheminé dans son esprit. Revint sur ses pas, il fait demi-tour. Dans son cœur, il y a le désir d'aller retrouver Jésus pour remercier et de faire le chemin en sens inverse. Il y a d'autres passages de l'Évangile où c'est un peu la même chose. Il revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il n'est pas timide d'une part et il n'hésite pas à témoigner publiquement et à rendre grâce à Dieu à pleine voix à Dieu, le Dieu auquel il croit en tant que juif, le Dieu créateur du ciel et de la terre, Yahvé. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus. Quelle attitude encore d'adoration au fond. On retrouve un petit peu la profession de foi que Thomas fera en constatant les blessures de Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, mon Seigneur, Jésus est vraiment Dieu aussi et Seigneur. Et bien là, cet homme glorifiait Dieu à pleine voix, puis en même temps, il se jette contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce, ajoute encore Saint-Luc, en lui rendant grâce. Donc voilà l'attitude de cet homme qui est vraiment touché par sa guérison et qui sait remercier et exprimer sa louange, sa prière, exprimer sa foi en Jésus. Et Jésus, constatant qu'il est venu, déçu de ce que les neuf autres n'aient pas, ne l'aient pas accompagné, Jésus va avoir cette parole, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Relève-toi, Jésus ne nous demande pas de rester prosterné en adoration ainsi pendant 24 heures, va, continue à faire ce que tu as à faire dans ta vie de tous les jours. Jésus ne va pas lui mettre dessus en disant « Ah, j'ai un adepte de plus, Jésus n'est pas gourou ». Et puis, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. L'importance de l'acte de foi qui va vers Jésus et qui reconnaît Jésus comme l'auteur de toute grâce et qui fait que vraiment, alors, on peut se laisser saisir par Jésus pour aller avec lui dans la gloire jusqu'en vie éternelle. Il y en a 9 qui ont été guéris, il y en a un seul qui a été sauvé, et le mot est différent, guérison et salut. La guérison, c'est la guérison du corps, c'est la guérison du psychisme, c'est la guérison de blessures intérieures. Nous en avons tous, nous sommes tous cabossés. Le salut, c'est vraiment découvrir Dieu comme l'auteur de la vie qui m'est donnée et puis nous restituer à lui, nous offrir à lui, faire retour au Père avec Jésus pour entrer dans la gloire définitivement. C'est cela, être sauvé. Il y a une grande différence avec être guéri. Peut-être nous pouvons, pour terminer, faire le lien avec l'acte que le pape François pose en ce moment à Rome, ou qu'il va faire à la fin de la messe qu'il est en train de célébrer, la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Ça peut sembler un tantinet désuet, à la fois comme vocabulaire et comme démarche, et ça s'enracine dans les paroles que la Vierge Marie avait dit aux enfants de Fatima en 1917, en disant « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Et la Vierge Marie, par l'intermédiaire de ses enfants, avait demandé que le monde soit consacré à son cœur immaculé. Et les papes l'ont fait, mais elle avait demandé aussi que soit mentionnée à l'époque dans cette consécration, particulièrement la Russie. Pie XII l'a fait, n'a pas mentionné la Russie, il a mentionné des peuples qui, etc., mais sans dire explicitement, dans une attitude très diplomatique. Et puis, c'est Jean-Paul II qui, à partir de son attentat en 1981, attentat qui a eu lieu, je crois, si je me souviens, le 10 mai ou le 13 mai, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, justement, ça lui a fait un choc. Il a fait demander qu'on lui ramène ce qu'on appelle le secret de Fatima, le texte qui était dans des coffres-forts. Et à la suite de cela, il a voulu, effectivement, à nouveau, faire ce que Marie avait demandé, consacrer le monde à son cœur immaculé. C'est à la suite de ça, d'ailleurs, qu'on a pu voir en 1989 le mur de Berlin s'écrouler sans effusion de sang et la Russie être libérée du joug communiste. Mais Benoît XVI, Jean-Paul II l'a fait plusieurs fois à la suite, Benoît XVI l'a refait et le pape François veut le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire effectivement entrer dans ce mouvement de restitution du monde à Dieu par l'intermédiaire de Jésus qui est le seul médiateur et le seul sauveur, avec l'aide de Marie qui elle aussi est toute consacrée à Dieu, toute entière livrée à Dieu, toute sainte. Et c'est donc pour nous, par exemple, si nous faisons une consécration au cœur immaculé de Marie, ça veut dire je vis la consécration de mon baptême, je suis consacré à Jésus par mon baptême, et je la vis particulièrement à travers le cœur de Marie qui est tout entier donné à Dieu, tout saint, totalement saint et totalement voué à Dieu, donc consacré à Dieu, pour que ma consécration soit encore plus facile avec son aide. Voilà. Et qu'elle ait pleine liberté pour agir dans ma vie en tant que mère et m'éduquer chrétiennement, qu'elle ait pleine liberté en ce monde pour agir afin que le monde puisse se retourner vers Dieu, et il en a bien besoin. Donc unissons-nous à cette démarche que le pape François est en train de faire, ou va faire tout à l'heure, pour prendre conscience de la nécessité de ce retour à Dieu, d'abord en nous-mêmes par notre conversion, et puis autour de nous, par un témoignage que nous pourrons donner comme cet homme qui avait été guéri et qui glorifiait Dieu à haute voix. Il y a des paroles que nous pouvons dire autour de nous pour aider les autres à se tourner vers le Seigneur.